Jérémy, non, voilà. Je disais que, oui, non, ce que tu disais, non. Et en fait, bon, on parle aussi que ta banque ou toutes les banques, ils essaient de trouver des solutions au niveau des, on va dire, des bonnes vertes, comme tu disais. Mais bon, ça.
Des green bonds,
ouais. Ouais, ou des énergies renouvelables. Mais bon, ça, c'est bouger les problèmes d'un côté à l'autre, en fait. Parce que.
Exactement, voilà. C'est
grâce à Chicos.
C'est transposer le problème de la limitation des ressources énergétiques à la limitation des ressources matérielles, parce que voilà, beaucoup de gens, même en banque, même qui ont fait beaucoup d'études, pensent que la technologie et notre mode de vie tombent un peu du ciel et qu'on est dans une économie qui est dématérialisée parce qu'on a des écrans d'ordinateur, etc. Mais en fait, voilà, c'est tout ce qui est l'infrastructure nécessaire à la transition, ce qu'on appelle la transition numérique ou la transition énergétique. En fait, c'est la même chose, numérique et énergétique. Tout ça dépend de terres rares, de matériaux critiques ou terres rares qu'on appelle,
ouais.
Qui sont disponibles en quantité limitée et qui sont extraits, raffinés, transformés dans des conditions épouvantables, à la fois humaines, mais aussi écologiques. Donc ça aussi, c'est complètement... Donc voilà, là on bascule plus de la finance au développement durable, à tout ce qui recouvre le terme de développement durable, de transition énergétique, transition écologique. Et en fait, voilà, il y a un discours dominant qui est là depuis au moins une cinquantaine d'années que le monde commence à se rendre compte, dans les pays riches en tout cas, qu'il y a, probablement un problème de limite à la croissance. Et donc, ça fait au moins 50 ans, déjà, Jimmy Carter, le président américain, en 1974, je crois déjà, lui-même mettait des panneaux solaires sur la Maison-Blanche pour donner l'impression d'un changement de paradigme aux États-Unis. Et en fait, voilà, c'est vraiment pas une idée neuve. Ça fait plus de 50 ans qu'on parle de développement durable ou de croissance verte. Et notamment, comme tu l'as dit, donc, par les énergies renouvelables. En oubliant que ces énergies renouvelables ne poussent pas dans le sol. C'est pas... le terme est prêt à confusion,
ouais,
en fait.
Ouais.
C'est vraiment des méga-machines industrielles qui nécessitent de faire des trous dans la terre, de transformer des matériaux premiers dans des usines, de faire un assemblage à un autre bout du monde, etc. Donc, en fait, toutes ces étapes, déjà, nécessitent du pétrole. Il n'y a pas une seule énergie renouvelable industrielle qui n'a pas besoin de pétrole, parce que pour faire des trous dans la terre, pour faire ça, pour élever ensuite une éolienne avec une grue, évidemment, il faut du pétrole, etc. Donc, il y a du pétrole dans tous les sens. Et en plus, donc, les matériaux constitutifs de ces énergies renouvelables sont eux aussi non renouvelables. Et donc, c'est du cobalt, du coltan, du lithium, tous ces matériaux que très peu de gens connaissent au final. Et qui sont donc soit en Chine en très grande quantité, c'est aussi pour ça que la Chine est assez bien positionnée là aujourd'hui pour se salir les mains elle fait le travail sale chez elle pour permettre à l'Europe de se donner bonne conscience en achetant des énergies renouvelables faites là-bas et où les lacs, les terres et l'air est complètement ravagé par les processus de traitement chimique des terres rares, ou alors c'est au Congo la RDC qui près de, je crois, 60 ou 80% du cobalt dans le monde et dans les terres en fait congolaises, et Apple, Microsoft, Tesla, tous les grands groupes à la fois de la transition numérique ou de la transition énergétique sont impliqués dans des procès où en fait des enfants congolais sont morts dans les mines, et ces grands groupes sont impliqués dans ce procès.
Ouais.
Et évidemment qu'on peut s'attendre, comme les grandes banques, que ces géants du numérique puissent s'en sortir avec une amende dérisoire et continuer à exploiter les pays africains sans problème.
Donc, quand on va dans nos courtiers et tu leur demandes un portefeuille durable, vert, tout ça, et ils te montrent les fonds d'inversion qui sont gérés par... BlackRock, etc. Donc attention, parce que comme tu disais, on n'est pas sûr parce qu'ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas sûr qu'elle soit durable, qu'elle soit verte, parce que, comme tu disais, ils utilisent des matières fossiles. Malheureusement, tous les enfants qui sont décédés dans les mines en Afrique. Donc, c'est quand même, on est bien carotté. Hein.
C'est ça. C'est, voilà, là aussi, il n'y a absolument rien qui est quantifié, absolument rien qui est mesurable. Est-ce que voilà, les bénéfices supposés positifs d'une obligation verte, donc l'obligation verte c'est le produit financier phare d'HSBC, de toutes les banques pour faire croire qu'elles font de l'écologie, ce sont des produits financiers appelés verts, des dettes vertes, et en fait voilà, on peut absolument financer n'importe quoi là-dedans, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun contrôle qui est effectué sur ces produits verts. Il y a même l'Australie qui a été attrapée pour financer l'expansion de centrales à charbon avec des obligations vertes. Donc vraiment, tout et n'importe quoi peut être là-dedans. Et en plus, enfin, voilà, c'est bon, on n'a aucune idée en fait, qu'il y a un impact positif. Et en fait, la raison pour laquelle il n'y a aucune mesure qui est faite de quantification de l'impact de ces produits verts, c'est que la réponse serait négative. Ouais. Tous ces produits-là produisent beaucoup plus de pollution qu'ils n'apportent de bénéfices. Sachant que derrière, quel va être l'usage de ces énergies renouvelables ? Est-ce que ça va être pour régénérer des forêts, des espaces naturels, des espaces sauvages, ou pour alimenter des frigos connectés et des voitures autonomes ? Bon, la réponse est facile là aussi. On voit très bien que ça va juste alimenter encore plus de croissance énergétique, encore plus de consommation matérielle.
Ouais, c'est clair.
Et même une dimension humaine qui peut-être, voilà, vu la communauté hispanophone de la radio, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je pensais que ça pourrait vous intéresser.
Ouais.
C'est East Menio, le vent de la révolte, de Alessi de l'Umbria, la documentariste, chronique d'une lutte indigène contre l'industrie éolienne.
Mmh.
Et donc, ça part, voilà, c'est un petit documentaire sur les résistances des populations locales indigènes au Mexique. Contre un projet industriel d'éolienne. Parce que voilà, évidemment, ça va complètement ravager les espaces naturels sur lesquels ces peuples dépendent, par rapport auxquels ces peuples dépendent pour vivre de manière aujourd'hui déjà autonome et d'une manière, pour le coup, qui est infiniment plus soutenable que les banques et les pays qui vont financer ces éoliennes. Et donc voilà, je l'ai pas vu en entier, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est dans l'isthme du Tehuantepec, dans le sud du Mexique. Je le prononce peut-être très mal, mais enfin bref, voilà, c'est un petit documentaire qui peut être intéressant pour voir aussi, voilà, au-delà de l'aspect énergétique, voilà, l'aspect humain en fait, les dégradations et les asservissements humains qu'il y a derrière les énergies renouvelables et les illusions renouvelables.
Et donc voilà, donc on a parlé des bons verts et tout ça, et maintenant tu quittes ton poste, tu décides de démissionner, donc tu expliques tout ça dans les livres, et après tu te dis, je passe à l'action. Et donc un des points que tout le monde s'est dit, il faut éventuellement, parce que c'est vrai qu'au niveau des universités, on ne parle pas de changement climatique, surtout au niveau d'économie, on ne parle pas de changement climatique. Et donc, tu t'es dit, il ne faut pas laisser passer ça, il faut qu'il y aille informer les élèves, en tout cas parler avec les collèges, les universités, sur les changements climatiques. Et là, c'est dit sous le gâteau, les universités, ils ne veulent rien savoir, en fait.
Exactement, voilà, c'est là où voilà, j'ai confirmé une de mes intuitions. Parce que, évidemment, tous les rapports de finances vertes, en France, on a aussi ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, que ce soit les banques, les multinationales ou les États, ils ont vraiment tous la même matrice, la même logique. Et donc, quand je dis État, ça veut bien dire aussi les universités et les grandes écoles. Ouais. Ils ont tous la même matrice et la même logique de se dire... La crise environnementale et climatique qu'on est en train de vivre est une opportunité pour certains, pour se positionner, pour ouvrir des marchés. Mmh. Comment protéger, comment rendre le marché financier, l'État, le mode de vie occidental, comment rendre tout ça résilient face aux problèmes du changement climatique ? Et absolument pas l'inverse.
Mmh.
Donc, et en fait, voilà, et les universitaires, les gens qui ont fait, comme moi, des grandes études dans les grandes écoles, ingénieurs, etc., aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont formatés inconsciemment, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont formatés à servir les intérêts d'une classe à laquelle ils appartiennent, qui est une classe qui a une logique de marché, une logique libérale, une logique capitaliste, de il faut créer des nouvelles opportunités financières. Et donc, j'avais déjà cette intuition, et elle s'est confirmée, comme tu dis, quand je suis retourné dans mon ancienne école d'ingénieur pour aider en fait des jeunes qui étaient un peu plus jeunes que moi, des jeunes anciens, à porter justement ce discours et à changer les cours des mines dans lesquels j'ai été, donc l'école des mines d'ingénieurs, pour changer les cours en conséquence. Mmh. Et c'est là où voilà, on s'est rendu compte qu'après presque un an d'efforts, plusieurs réunions avec le directeur des mines, avec l'administration, avec la responsable du développement durable, etc., on est arrivé avec un programme qui était assez, enfin voilà, qu'on avait travaillé ensemble collectivement, qui était honnête et qui évitait de tomber dans les fausses solutions des énergies renouvelables, de la compensation carbone, de la croissance verte, tous ces mensonges qui sont déconstruits de plus en plus par beaucoup d'études, pour le coup là aussi académiques. Mmh. Mais voilà, ça reste une minorité, mais quelques académiciens font un travail presque dans le désert, seul contre tous. Et donc on apporte cette synthèse, notre travail à l'école des mines. Mmh. Et on nous répond, non, mais écoutez, on a trouvé mieux. On va réorganiser les cours comme vous voulez. On va faire 50 heures sur le sujet obligatoire comme vous vouliez, parce que nous, on voulait 50 heures en première année, ouais, sur ces enjeux. Et par contre, on a trouvé un autre cours qui est dispensé, donc presque un tiers de ces 50 heures. Donc il y a deux tiers qui ne va quasiment pas bouger. C'est ce qu'ils faisaient déjà dans un module qu'ils appelaient développement durable. Voilà, rien que le nom du module est problématique, parce que qui dit développement durable, en fait, c'est croissance verte qu'il faut entendre derrière. Ouais. C'est comment continuer à faire du développement, donc du développement industriel, développement productiviste, etc., mais durable. Voilà, on met durable quand même parce que ça fait bien, parce que c'est l'enjeu du moment. Donc les deux tiers quasiment du cours ne bougent pas. Et un tiers va être nouveau, ça s'appelle l'économie du changement climatique. Mmh. Et en fait, c'est un cours qui est déjà donné aux mines, pas aux mines, à Dauphine, une école assez connue, donc aussi à Paris, d'économie. Et les cours, en survolant les cours, qu'est-ce que je lis, concurrence, marché de l'énergie, compensation, croissance verte, voilà. Économie du changement climatique et la croissance verte. Voilà, ce que, voilà les cours que les mines ont jugé meilleurs que nos suggestions, qui pour le coup étaient collaboratives. On a fait une sorte de convention citoyenne pour le climat à petite échelle. Et voilà, ça a été balayé très vite, sans argument. On envoie toutes nos interrogations sur leur stratégie. L'école a apparemment une stratégie aussi, donc je ne l'évoque pas trop, mais voilà, il y a toute une stratégie. Ouais. Qu'elle nous avait fait parvenir une politique pour intégrer ces enjeux dans les formations. On a eu plein de points problématiques qu'on a soulevés, etc. Et on attend toujours la réponse. On n'a jamais eu réponse de leur part. Ils ne répondent pas à toutes nos questions. Leur travail est très, très bancal et vraiment très confus. Mmh. Et non seulement ils ne répondent pas à nos questions, mais en plus, ils ne prennent pas nos suggestions. Ils en prennent d'autres qui tombent dans les mêmes écueils que les banques, les multinationales, les États. C'est vraiment comment se maintenir, comment rester à notre position et comment faire que rien ne change, tout en disant qu'on change un peu quelque chose quand même pour calmer un peu les gens et faire croire et faire de la communication. Ouais. Même notre directeur nous a dit que c'est beaucoup de communication tout ce qu'on fait. Donc vraiment voilà, c'est une désillusion supplémentaire qui me fait dire dans le livre que voilà, l'éducation, c'est pas forcément quelque chose de nuisible de vouloir prétendre éduquer, au contraire, voilà, de vouloir prétendre éduquer les gens. Mais même dans une école, dans une université où on pourrait croire que les pressions industrielles, financières et actionnariales sont quasiment inexistantes. Ouais, elles sont là.
Ah oui, bien sûr.
Ils sont là. Ils ont besoin de, voilà, ils ont besoin de chair fraîche.
Ouais,
ils sont actifs.
Ouais, ils cherchent les gens. Donc non, mais en fait, ce que tu disais au niveau des universités, non, c'est bien connu aussi. Donc les Premier Nobel 2018, William Norhaus, un Américain, vient de l'école de Chicago, donc une école j'ai lu quelque part dans son bouquin que 80% appartient à ce courant-là, que c'est un courant ultralibéral. Donc, changer ça. Donc, voilà, pour résumer, donc, au niveau des banques, voilà, chercher la problématique ou essayer de résoudre la problématique à l'intérieur des banques, très compliqué. Elles s'autorégulent, donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc ça, c'est ouais. quelque chose de certain. Donc, voilà, si nous, en tant que citoyens, on veut dire, bah, nous, on va investir notre argent dans des bons verts, voilà, c'est la même chose, renouvelable, on change les problèmes d'un côté à l'autre, donc il n'y a pas de souci. Essayer de changer les futures générations, ouais, c'est du boulot aussi, parce que comme tu l'as dit, les universités sont, voilà, les grosses multinationales, ils sont derrière, ils demandent des postes aux écoles, aux autres écoles, pour fournir la chaîne capitaliste. Donc voilà, il y a des solutions, je ne sais pas si tu peux donner ou on les laisse, mais qu'est-ce qu'on peut prévoir à ce moment-là? Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font déjà. Il y a beaucoup de grèves qui se font à gauche, à droite pour essayer de rompre ce système capitaliste à tous les niveaux. Il y a la monnaie locale, ici à Bruxelles, Val de Bruxelles, il y a plusieurs choses, mais bon, ça s'avère très, très compliqué et le temps presse, hein, Jérémy, le temps presse parce qu'on n'a pas de masse, et on n'a pas de temps en fait. Hein. Donc,
Exactement, ouais. C'est, de toute façon, voilà, si on ne se met pas au tempo, le temps va nous rattraper en fait. De gré ou de force, cette génération, ma génération, on va vivre une décroissance, on va vivre un effondrement qui va être de plus en plus direct, même pour ceux qui se pensent épargnés parce qu'ils sont dans des pays riches, ils sont dans la classe moyenne des pays riches, donc ils se disent bon ben ça, un peu cyniquement, ça va pas me concerner, ça va être les pauvres en premier. Donc voilà, déjà les pays pauvres, c'est eux qui prennent le plus cher en ce moment en termes de ravages du changement climatique et de tous les désastres écologiques que cette civilisation entretient pour sa propre vitalité. Donc voilà, le temps presse et voilà. Voilà, de gré ou de force, cette génération devrait vivre vraiment une succession de crises et de chocs à laquelle il faut être préparé. Et que ce soit de gré ou de force, il va y avoir une succession de crises, il n'y aura pas de transition en douceur. Et voilà, une des dispositions les plus vitales pour nous, citoyens et autres, c'est vraiment de se préparer à ça, de se préparer à une succession de perturbations assez violentes dans le système économique mondial et donc de notre confort, notre confort qu'on considère comme complètement acquis et qu'on espère que le monde entier un jour l'aura ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit énormément se questionner et commencer à déserter même et à faire sécession de ce modèle. Ouais. Ce sera, de toute façon, voilà, ça va nous rattraper, qu'on le veuille ou non, à part une poignée de milliardaires qui enverront leurs enfants dans des îles bunkerisées avec une poignée d'esclaves pour leur faire à manger. À part du coup ces 0,01% de la population mondiale, tous les autres, a priori, on va être en première ligne, surtout la génération qui arrive, face aux conséquences d'un monde qu'on n'a pas forcément voulu. Et donc voilà, enfin c'est très dur de résumer tout ça en peu de temps, mais ouais. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment des prises de conscience qui peuvent être assez brutales, assez violentes, et vraiment psychologiquement mettre dans des états de dépression, des fois momentanés. On espère hein, que les gens arrivent ensuite à retrouver un pouvoir d'agir qui les immobilise pas. Mais voilà, il y a vraiment une phase, je pense, qui est assez douloureuse, vu qu'on n'entend pas parler de manière honnête dans les universités, dans les médias, dans les grands groupes, où que ce soit, en fait, on a très peu de manières d'appréhender le problème de manière douce. Et plus on tarde dans cet aveuglement plus ou moins conscient, plus on va empirer les choses. Donc c'est... Mais voilà, il y a vraiment une étape... Qui est nécessaire pour au moins cerner le problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, j'intègre comme une forme de solution. Donc, je pense qu'on va y venir là pour conclure. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que, comme je le dis dans le livre, comme je le dis dans l'association que j'ai essayé de mettre en place avec ma copine pour justement répondre à notre manière à cet bouleversement, à cette crise existentielle presque que beaucoup de gens traversent en ce moment, résister aux fausses solutions, et vraiment essayer d'avoir un esprit critique extrêmement affûté sur tout ce qui est compensation, développement durable, tous les mensonges qu'on peut entendre dans les universités, dans les grands groupes. C'est vraiment avoir un regard critique et se rendre compte que ce ne sont pas des solutions. Et donc résister aux fausses solutions, ça fait partie des solutions. C'est vraiment, il y a de plus en plus de recherches empiriques, de travaux, de documentaires, d'activistes, de scientifiques qui essaient justement de mettre en avant que tout ce qu'on nous a vendu depuis 50 ans, c'est des mensonges. Et donc déjà, donner de l'écho à ces personnes-là qui critiquent depuis très longtemps le mode de vie productiviste, industriel et technologique capitaliste de cette société, c'est déjà avancer dans le bon sens, je pense. Ouais. Ne plus rien attendre aussi des États. Les États peuvent tout contre nous, mais ils ne peuvent rien pour nous.
Ça, c'est clair.
Et ça, c'est quelque chose aussi qui est pas évident pour beaucoup d'ingénieurs, pour beaucoup de citoyens, en fait, hein, de penser que l'État de Providence est là pour nous cajoler, pour prendre soin de nous, etc. Ça aussi, c'est toutes les acquis sociaux qu'aujourd'hui on pense comme étant existants depuis toujours, ça a été acquis suite à des luttes très violentes, parfois sanglantes, du corps ouvrier, du corps social. Et vraiment, l'État n'a pas pour fonction de procurer un bien-être maximal à sa population. L'État a pour fonction d'organiser l'économie mondiale. C'est l'État moderne. L'État moderne, c'est ça sa fonction, c'est d'assurer que les règles du jeu soient efficientes pour faire de la croissance. C'est ça son intérêt. Il n'a aucun moyen, aucune manière de réduire les gaz à effet de serre, de réduire l'extraction d'énergie fossile, de réduire la consommation individuelle et la production surtout des multinationales. C'est se tirer une balle dans le pied. Si un État veut être écologique aujourd'hui, il se tire une balle dans le pied. C'est pas sa fonction. Là aussi, il faut avoir une forme de défiance, donc à la fois de la part, vis-à-vis des solutions technologiques qu'on nous vend comme étant la porte de sortie pour avoir une biosphère viable d'ici une génération, mais aussi les relais de ces multinationales, ce sont ces États-là qu'il faut aussi essayer de s'en émanciper, de s'en extirper. Pour justement, et là on en arrive peut-être à la deuxième solution qu'on envisage, essayer de créer des communautés autogérées, essayer de créer des espaces politiques autonomes le plus possible et de recréer en fait des espaces politiques hors de l'emprise de l'État, hors de l'emprise de l'argent et de la dette. Ouais. Et ça, donc c'est une étape supplémentaire, c'est une étape, on va dire, c'est ce qu'on anticipe comme une deuxième étape. Qui est plus éprouvante, qui est plus prenante pour le coup, parce qu'il faut vraiment s'appliquer à soi-même cette réflexion. Et ça peut pas se faire juste en croisant des références, des documentaires et des rapports sur Internet. Là, pour le coup, c'est vraiment s'approprier ses propres conditions de subsistance et commencer à savoir faire pousser des choses, commencer à recréer un lien que notre espèce a eu pendant quasiment toute son histoire avec la nature, et qu'on a complètement perdu. Il y a une amnésie écologique qui est foudroyante depuis quelques générations, dans les pays riches en particulier, qui devient de plus en plus urgent de retrouver. Et donc là aussi on part pas de rien, hein. Que ce soit les éco-villages, les jardins partagés, les hameaux, tu parlais des monnaies locales.
Il y a plein d'initiatives, comme tu dis, il y a plein de choses, donc il faut pas être... Il y a des choses qui se font, donc comme tu disais, les jardins partagés, des gens qui font des toilettes sèches, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui achète pas de vêtements, qui s'échange les vêtements, il y a énormément de choses, quoi. Devenir autonome, c'est vrai, revenir au lien avec la nature, et faire les travaux nous-mêmes, et faire les meubles nous-mêmes. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Exactement. Faut vraiment voir la crise écologique comme une continuité de la crise sociale, en fait, que on vit depuis l'hégémonie des États. Et ça aussi, je fais une brève dédicace, une brève référence à un anthropologue anarchiste américain, donc James C. Scott, qui vraiment a fait un travail exceptionnel sur la généalogie de l'État, sur d'où vient l'État et pourquoi est-ce qu'on considère en Occident aujourd'hui que c'est une structure qui a toujours existé dans l'histoire de l'homme, alors que ça occupe les derniers dixièmes de pourcent de l'histoire de notre espèce, cette logique d'avoir un chef tout puissant qui avec une poignée de ses potes qui décide pour toute une population et qui utilise la violence institutionnelle, ouais, la violence légitime pour de l'État justement pour garder des travailleurs prêts à donner leur force et à vendre leur force sur le marché du travail. Ouais. Donc c'est voilà une crise sociale écologique et donc voilà, faut qui dit retrouver des liens et retrouver un rapport à la nature, dit aussi retrouver un rapport à la politique qui soit vraiment à une échelle humaine pour le coup. Ouais. Et donc, comme tu disais, voilà, quitte à apprendre comment faire les choses, etc., c'est beaucoup mieux, voilà, évidemment, de le faire en collectivité, en communauté, et de savoir en fait par où passent les choses. Si je construis quelque chose, si je répare quelque chose, si je fais pousser quelque chose, qui va m'aider et comment je peux l'identifier, comment je peux lui parler, comment je peux interagir avec lui. Ça, c'est vraiment des interactions qu'on a complètement perdues. L'individualisme et l'atomisation de la société en petits individus qui pensent qu'à leur tronche, ça aussi, c'est une conséquence de ce modèle néolibéral capitaliste. Et voilà, il faut recréer des communautés, des groupes qui partagent certaines valeurs communes et qui se connaissent dans leur économie locale et où l'économie est vraiment imbriquée dans les rapports humains et dans des rapports à la nature qui sont encore vivants dans certaines communes, communautés, dans certains peuples, certains autochtones, indigènes, chasseurs-cueilleurs aujourd'hui dans le monde. Il y a des exemples à la fois en Occident, mais encore plus d'exemples en dehors de l'Occident, de gens qui, voilà, même très consciemment, ne voulaient absolument pas toucher au progrès technologique comme on l'entend. Et donc voilà, il y a plein d'inspirations à prendre de la part de ces personnes-là et même de ceux qui osent faire quelque chose dans des endroits qui n'étaient pas destinés pour. Voilà, en Belgique, en France, c'était a priori, voilà, tout le monde devait aller travailler soit à l'usine, soit dans des bureaux devant un ordinateur 8 heures par jour. Ouais. Non, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça et qui s'organisent autrement et qui déjà, voilà, c'est aussi une manière de lutter contre la banque, contre le capitalisme et de faire sauter la banque. C'est de ne plus dépendre de la banque, d'être complètement autonome par rapport à l'État et par rapport au capitalisme. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait horreur. C'est vraiment quelque chose où si on montre qu'on arrive à se passer de lui entièrement, et ça prend du temps, c'est très long, c'est quelque chose qui se décide avec son conjoint, avec ses parents. Parler autour de soi. C'est vraiment un changement de vie très radical qui ne se prend pas à la légère, qui prend du temps pour le programmer. Moi, ça fait plus d'un an que je suis convaincu de ça, mais que voilà, je continue à tâtonner, à chercher, à trouver des bons contacts, juste à voir clair en fait, à réapprendre à marcher, à voir clair. Hein, c'est quelque chose qui prend du temps et qui se fait pas à la légère. Et donc ça, voilà, c'est un peu la deuxième solution. Et la troisième, donc qui est certainement la plus dure pour beaucoup de gens. Donc c'est très schématique ce que je dis, c'est assez grossier. Je détaille un peu plus.
C'est clair, c'est très bien.
Dans le livre, c'est que tout ce qu'on vient de décrire, tout ce dont on vient de parler, je les mets un petit peu. Enfin, ça peut être offensif le fait de résister aux fausses solutions, parce que peut y avoir des lanceurs d'alerte typiquement qui vraiment sont en conflictualité assumée avec leur employeur. Et qui donne des informations confidentielles qui sont au bénéfice de la société et pour le coup ça permet de lutter contre des fausses solutions, c'est-à-dire croire que une banque lutte contre l'évasion fiscale alors qu'ils ont été au courant d'un montage et qu'ils n'ont rien dit. Ça permet de lutter contre les fausses solutions et c'est très offensif. Mais voilà, peut y avoir des manières plus défensives de lutter contre les fausses solutions. Et aussi de créer des sociétés autonomes, autogérées, sans l'emprise de l'État et du capitalisme. Mais ça s'inscrit, d'après moi, un petit peu comme ce que j'appelle des solutions défensives, qui sont absolument nécessaires, de pouvoir, si demain, même de manière très métaphysique, en imaginant que demain je ne puisse plus aller au supermarché, parce qu'il y a une panne d'approvisionnement, parce qu'il y a quoi que ce soit, ben, je peux subvenir à mes besoins, à ceux de mes proches. Mais voilà, ça s'inscrit plus dans une dimension défensive de la lutte. Et un point aveugle de beaucoup d'organisations politiques, d'État forcément, qui se prétendent de gauche ou d'extrême gauche ou écologistes, il y a un point aveugle dans leur stratégie qui est celle de la dimension offensive. Parce que on est dans une situation aujourd'hui où on sait que des multinationales, Exxon par exemple, pour ne pas la nommer, depuis plus de 30 ans, financent des lobbies climato-sceptiques. On sait que Google même, très récemment, a fait de même. Plusieurs sources vont dans ce sens. Et donc, faut vraiment être conscient qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Il y a des gens qui, on en parlait un peu avant, voilà, les 0,01% qui commencent déjà à acheter des bunkers dans des îles privatisées, etc. Ces gens-là sont des purs psychopathes.
Ouais.
Et au sens vraiment clinique du terme. Et c'est vraiment... J'en ai encore des exemples que je n'ai pas mis dans le livre, mais que voilà, certains retours que je peux avoir d'anciens collègues dans les banques ou quoi me disent. Certaines personnes dans les banques, bien placées, traders haut placés, commencent à imaginer des stratégies de trading pour profiter de l'effondrement de la biodiversité ou des effondrements en cours.
Ouais.
Donc il y a vraiment des gens qui commencent à même vouloir essayer de faire de l'argent
avec
sur la fin du monde, en fait. Donc il ne faut vraiment pas croire qu'on est en même bateau et malgré les discours politiques. Et donc, il faut commencer à... Voilà, même pas commencer, parce que ça se fait déjà depuis très longtemps, depuis voilà, les premiers anarchistes qui se sont battus contre la révolution industrielle, après les marxistes aussi, tous les mouvements sociaux d'il y a plus d'un siècle, le mouvement des luddites en Angleterre, contre le machinisme, etc. Il y a voilà, toute une culture aussi de résistance qui a intégré qu'il fallait ajouter une dimension offensive à la lutte. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi des solutions qui sont incontournables, mais qui évidemment, là pour le coup, on va sur une dimension où on n'est plus dans quelque chose de légal. Autant on peut faire de résister aux fausses solutions, comme je l'ai fait avec mon livre, ou créer des alternatives durables de manière tout à fait légale, autant là, et je pense que ça va être nécessaire, il y a une frontière qu'il va falloir frôler. Voire complètement enjamber. C'est celle vraiment de voilà, la propriété privée et de comment mettre un terme à la propriété privée en s'attaquant et en sabotant certaines infrastructures industrielles. Parce que c'est voilà, ceux qui sont à la tête de certains empires, comme Total, comme Renault,
c'est clair.
Ils n'ont aucun intérêt à mettre un terme à leur usine, fermer leurs usines et à adopter une politique de décroissance.
Ouais.
Donc, il va falloir que les citoyens s'y mettent d'eux-mêmes, hein, d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Et l'histoire des luttes sociales est parsemée d'actes de sabotage et de démantèlement. Il y a eu, que ce soit les mouvements sociaux à la fin du 19e ou pendant la Seconde Guerre, les résistants en France contre l'occupation allemande, qui ont fait dérailler des trains, le mouvement des Black Panthers aux États-Unis, les suffragettes en Angleterre. Tous ces mouvements sociaux d'ampleur ont intégré une dimension offensive pour pouvoir lutter à armes égales.
Ouais.
Ce n'est pas nous qui fixons le degré de violence, c'est l'État et le capitalisme en faisant disparaître 200 espèces par jour, en rendant la planète invivable d'ici 50 ans, etc., qui fixe un niveau de violence. Et sans être capable, on ne sera jamais capable d'atteindre le même niveau qu'eux, on peut sérieusement les mettre, on peut sérieusement contribuer à les mettre hors d'état de nuire. Et du coup, je propose quelques idées voilà, dans le livre, un mec qui aurait ma position dans le trading algorithmique, qui pourrait voilà, faire fuiter certains algorithmes de sa banque, qui aurait un effet en chaîne, vu que toutes les autres banques essaieraient de le répliquer, ça pourrait avoir un effet en chaîne assez critique sur la banque en question qui s'est faite leaker, qui s'est faite fuiter, et du coup créer des effets de rumeur, des effets de contagion, même si l'algorithme est faux. Créer des effets de rumeur et de contagion qui pourraient sérieusement mettre la réputation, sérieusement nuire à la réputation de la banque. Donc ça, c'est plus de la part d'un sabotage interne. Et on sait, un exemple que je donne, j'en donne d'autres, qu'un interne, quelqu'un qui, même avec un an d'expérience, comme moi, un tout jeune, peut produire à son échelle. Et forcément, plus on a d'expérience et plus on peut être on peut être nuisible et faire des dégâts dans, même dans un énorme groupe industriel où on pense être qu'un petit, une petit, un petit rouage de rien du tout. Mmh. On peut faire beaucoup de dégâts. Et évidemment, il faut adopter une culture de sécurité appropriée. Il ne faut pas se lancer dans, faut pas partir au casse-pipe et se faire attraper en deux jours par le service informatique. Il faut vraiment être très précautionneux par rapport à ça. Ouais. Voilà, il y a toute une culture de sécurité à développer. Et pour quelqu'un qui n'est pas dans la banque, mais qui a envie quand même malgré tout de contribuer à cet effort offensif de la lutte écologique et sociale, je prends voilà, l'exemple des antennes 5G, des antennes pardon, de très haute fréquence. Oui,
tu le mets en dans ton livre. Ouais.
Parce que voilà, et voilà, je fais un parallèle avec le 5G. On, voilà, les gens qui en France ou qui en Angleterre se sont mis à cramer des antennes 5G, c'est pas parce que, comme on a pu le faire croire, en tout cas très peu, je pense, parce qu'ils pensent que le coronavirus est diffusé avec le 5G. Ça, c'est ce qu'on raconte pour les décrédibiliser, pour les prendre pour des idiots. Je pense que voilà, c'est beaucoup de gens. Et en plus, en Angleterre, il y a vraiment Earth First, le mouvement écologiste Earth First, qui déjà adoptait ces pratiques offensives depuis au moins 40-50 ans, dans les années 70 en Angleterre. C'est des gens qui ont pris acte du fait que l'État et le capital ne compterait céder sur rien, ne compterait ne pas laisser un seul pouce de terrain accessible, et compterait, pour la 5G par exemple, sachant toutes les dévastations, toute la gabegie énergétique que ça va produire, et tous les appareils numériques qu'il va falloir renouveler, enfin, voilà, les voitures autonomes pleines de lithium.
Tous les contrôles qu'on va suivre, c'est incroyable. On s'est fait carotter encore une fois.
C'est une carotte extraordinaire. C'est vraiment le hold-up de la décennie presque. Ouais. Une technologie dont personne ne veut, personne n'a entendu parler, produite par la Chine. Aussi va complètement nous rendre dépendants des bons vouloirs de la dictature chinoise. Voilà, donc certaines personnes se rendent compte de ça, que ni l'État, ni Macron, ni Orange, SFR et tous les opérateurs mobiles, voilà, que tous ces gens-là étaient contre eux et ne feraient rien pour eux, et sont prêts à imposer une technologie nuisible dont personne ne veut de force, sans consulter personne. Même la Convention citoyenne pour le climat en France, cette parodie un peu d'expérience participative et démocratique. Au final, on a bien vu que ça servait à rien, que Macron avance comme un rouleau compresseur et va autoriser la mise sur le marché de la 5G, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, alors que ça faisait partie des 150 propositions de faire un moratoire sur la 5G. Et donc, certaines personnes ont pris conscience de tout ça, ils font acte de ça. Et qu'est-ce qu'ils se mettent à faire ? Démanteler, mettre hors d'état de nuire, saboter des 5G, des antennes 5G en les cramant, en mettant feu à ça. Et du coup, je me dis, ben, si certaines personnes sont capables de le faire, évidemment, j'en fais pas partie, parce que si je me permets d'en parler, c'est que je le fais pas derrière. C'est un des éléments importants dans toutes ces organisations de résistance politique. C'est aussi de répartir entre les visages découverts et les clandestins. Donc moi, je suis un visage découvert, donc je me permets d'en parler, parce que derrière, je ferai jamais rien, ce serait idiot. C'est quasiment sûr que je dois être pisté ou traqué à droite à gauche, donc je ferai absolument rien d'illégal. Mais par contre, voilà, je l'encourage, je le promeux, et je pense que c'est vraiment une cible qui est stratégique et qui peut être vraiment tactiquement intéressante, de plutôt que s'attaquer à une antenne 5G, de faire brûler l'antenne 5G, de s'attaquer, de faire brûler, de saboter une antenne de très haute fréquence. Et ça, il suffit vraiment d'être un petit nombre de personnes, d'avoir une culture de sécurité exceptionnelle, de vraiment être sûr de ne pas se faire attraper, de faire attention, de ne pas en parler à qui que ce soit. Enfin voilà, qui sont prêtes à le faire, il faut qu'elles développent aussi une autre culture de sécurité. Tout à l'heure, j'en parlais pour le numérique, mais voilà, il y a aussi une culture de sécurité physique pour le coup, si on est prêt à faire ça. Mais voilà, exactement comme les résistants pendant la Seconde Guerre l'ont fait sur des trains, comme les mouvements aux États-Unis pour les droits civiques, pour les droits ouvriers, pour les droits des femmes. Il faut s'inspirer de ce qu'ont fait ces gens-là, de comment ils ont réussi à le faire. Et voilà, il y a Andreas Malm aussi qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, Comment saboter un pipeline, où voilà, lui aussi il essaye d'abonder dans ce sens. C'est un universitaire suédois qui essaye d'ouvrir au moins ce débat. C'est un débat qui est incontournable, je pense, et qui manque beaucoup aux organisations politiques classiques, de comment préparer la riposte et comment aborder la riposte et l'autodéfense. C'est pas de la violence pour moi, c'est vraiment de l'autodéfense, c'est de la contre-violence. Et il faut absolument qu'on ait un débat et que les organisations écologistes de plus en plus osent aborder ce terrain.
Il y avait une question pour toi, Jérémy, parce qu'en fait, moi, j'étais au 17, donc il était notamment au 17 de Biarritz, et donc il était interviewé par Reuters, l'agence.
Ah ouais?
Oui, il était interviewé par Reuters, et donc il me demandait, donc les journalistes me demandaient qu'est-ce que je pensais des déclarations. En fait, on était à la manifestation à Hendaye, manifestation interdite, et donc ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai pensé des déclarations de Macron qui critiquait en fait la posture de Bolsonaro dans les incendies de l'Amazonie. Bon, je leur ai dit que d'abord c'est très bien qu'il critique, c'est très bien parce qu'il était d'accord, mais d'abord qu'il faut faire les ménages chez lui et en France, hein, donc c'est la réponse qu'il donnait. Mais en fait, je voulais te demander, en fait, il y a, parce que tu parles aussi dans ton livre, l'effet d'impunité au niveau des banquiers, au niveau des personnes qui travaillent dans les banques. En fait, ils sont, à la fin, s'il y a quelque chose, ils sont, voilà quoi, ils sont impunes, ils sont, voilà quoi, ils ne peuvent pas les poursuivre, en fait. Et donc là, tu es au courant sûrement, il y a le concept d'écocide, que Macron l'a cité il y a très peu de temps, en fait. Et donc, le concept d'écocide, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est de, en fait, quand il y a une multinationale, une société qui fait quelque chose, bon, maintenant, on ne peut pas les poursuivre en tant qu'individu, mais en tant que société. Et du coup, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais, en fait, avec l'écocide, ce qu'on essaie de, c'est de fixer une personne responsable lors de l'entreprise. Donc, le directeur, ou je ne sais pas. Et donc, Macron a parlé de ça à nouveau. Donc, ma question, c'est, est-ce que tu penses que, bon, en venant de Macron, je ne me crois rien, mais est-ce que tu penses que ça pourrait aussi aider à l'implanter en tant que solution, en fait, le thème d'écocide, en fait? Ton avis?
Mon avis, c'est que l'écocide, ceux qui en parlent beaucoup, je crois que ça vient beaucoup du parti écologiste, des Verts, etc. J'en parle aussi, que j'ai rencontré dans le livre Marie Toussaint, qui est députée européenne et qui est une juriste de formation et qui a beaucoup travaillé et abondé dans ce sens de mettre l'écocide dans la loi, dans la Constitution. Pour moi, à partir du moment où voilà, c'est appréhendé comme un outil juridique de l'État, ça tombe forcément dans une décision qui est imposée, où toutes les normes seront imposées d'en haut, et qui dit d'en haut, dit par des intérêts privés, qui derrière vont pousser, vont faire du lobbying, etc., pour que ça touche certaines entreprises et pas d'autres, etc. Donc c'est un peu comme tout ce qui est taxe carbone, on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Ouais. C'est un concept que l'État n'aurait absolument aucun intérêt à mettre en place parce que toutes ces multinationales prospèrent et donc l'État lui-même prospère sur des écocides. Et encore, on parle d'écocide, mais on ne parle pas aussi des ethnocides. Il y a tous les ethnocides. Donc ce n'est pas des génocides, mais c'est des ethnocides, c'est-à-dire vraiment de briser, de tuer une ethnie, c'est-à-dire une langue, une culture, une manière de vivre et d'interagir avec son environnement, comme certains Amazones ou certains indigènes au Brésil, en Amérique du Sud ou ailleurs. Et donc il y a des ethnocides qui ont lieu quasiment quotidiennement, comme des exterminations des espèces quotidiennes, pour permettre à l'économie de marché de prospérer. Donc non seulement les États, quels qu'ils soient, n'ont aucun intérêt à le mettre en place, et quand bien même un État le mettrait en place, il ferait d'abord mieux de remettre en question son pouvoir en tant qu'État. Ouais. Il ne faut pas que ce soit une décision qui soit prise unilatéralement depuis un conseil d'administration auquel personne n'a accès, personne ne comprend rien, fait par des technocrates, etc. Ça fait pas partie des solutions que j'envisage. Après, que ça soit dans le débat public et que on se pose la question et que ça fasse parler, pourquoi pas? Je me dis que c'est pertinent.
D'ailleurs, comme tu l'as dit, bon, on parle de ça depuis des années, et bon, là, on continue à parler, hein, donc depuis des années. Donc c'est vrai qu'il n'a pas intérêt à l'implanter. Ça,
c'est une boîte de Pandore énorme, tu imagines un peu si, On va commencer par quoi? On va commencer par peut-être les animaux. Voilà, on va dire, ok, on massacre des animaux dans des abattoirs, dans des conditions atroces, pour avoir du poulet pas cher et dégueulasse. Donc, ok, on va commencer par ça. Mais après, il y a aussi toutes les usines ou quoi que ce soit qui doivent ravager des espaces naturels pour s'implanter. Il y a Amazon, il n'y a pas longtemps, là, qui a eu une dérogation pendant le confinement pour pouvoir installer une usine en France en plein confinement. Donc là aussi, ils vont ravager une zone humide ou quoi que ce soit. Toutes les ZAD, en fait, toutes les zones à défendre qui eux aussi font partie de la lutte offensive, j'en ai pas parlé, mais voilà, qui s'intègrent et impeccablement dans quasiment les trois solutions en une. Pour le coup, la ZAD, c'est vraiment l'expérience politique et écologique, d'après moi, la plus aboutie en France et dans les pays riches qui font la même chose. Ils sont bien là, justement, pour eux-mêmes déjà être un rempart à l'écocide. Ouais. Si ces gens-là ne sont pas là, pour des projets de méga transformateurs électriques, pour un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, pour voilà, il y en a des dizaines en France maintenant de zones à défendre, il y en a en Suisse, en Belgique, de partout. Je crois que c'est la ZAD d'Arlon, je crois, si je dis pas de bêtises, en Belgique. Mmh. Voilà, tous ces collectifs, ces jeunes qui s'organisent, etc. C'est pour justement lutter contre un écocide. Et donc on voit bien comment ils sont reçus derrière, ils se font matraquer, ils se font gazer, ils se font tabasser par les flics. Et voilà, c'est la seule réponse que l'État peut proposer dans une lutte contre un écocide qui est déjà là, en fait. Ils sont déjà là,
les écocides, bien sûr.
Et ils se font massacrer. Et quand c'est pas juste tabasser, c'est carrément tuer dans les pays d'Amérique du Sud où la législation est un peu plus... est beaucoup plus laxiste peut-être que dans les pays du Nord. Mais voilà, il y a des centaines d'écologistes qui se font tuer par an... parce qu'ils justement étaient un rempart à l'écocide d'eux-mêmes. C'est une boîte de Pandore qui est beaucoup trop dangereuse. Tous les pesticides, du coup, faudrait les annuler. Toute la biochimie, la pétrochimie, faudrait la faire tomber. Tout le transport routier qui doit goudronner des espaces naturels, faudrait aussi le faire tomber. Enfin, voilà, qui dit écocide dit vraiment toute l'économie industrielle tombe, en fait. Ouais. Et ça, même les gens qui promeuvent le fait d'inscrire l'écocide dans la loi, ils sont même pas prêts à ça, exactement. Ils sont même pas prêts à accepter de faire tomber l'économie industrielle. Donc j'ai peur et j'espère me tromper, mais je pense que c'est assez le cas. C'est vraiment un argument électoral comme un autre, quoi. C'est comme le Green New Deal aux États-Unis. Là, on a Biden. Dieu merci, enfin, on a un démocrate à la Maison Blanche qui fait exactement comme Trump.
Voilà.
C'est une blague encore en plus. Mm. Et le Green New Deal, ça va être développement durable. Éoliennes de partout, compensation carbone, la même merde. Hein. C'est vraiment, je vois pas en quoi l'écocide pourrait être différent de quoi. C'est vraiment un argument électoral comme un autre qui sera au mieux inconséquent et au pire nuisible.
Ouais, et donc tu viens de me donner une belle transition parce qu'en fait tu as parlé de ça à Arlon qui se font massacrer, matraquer par les forces de l'ordre. Donc la répression est là, donc de plus en plus pour garder le système capitaliste. Ça, c'est clair. Et donc dans la prochaine émission, Jérémy, et je t'invite à l'écouter si tu veux, on aura un juriste qui a écrit un livre de comment faire face à la police, donc de connaître nos droits, parce que de plus en plus, ça devient très important de connaître nos droits face à la police, vis-à-vis les abus qu'ils vont commettre, ils sont en train de commettre. Donc il faut connaître nos droits pour les dénoncer, pour ne pas se laisser faire. On sera avec des ASOC de Bruxelles, collectif de Madre, que c'est des mecs qui ont créé un collectif parce qu'il y a eu des violences policières en vie des jeunes à Bruxelles. Parce que soi-disant la police disait qu'ils n'ont pas porté plainte, mais les gens ils étaient fort terrorifiés parce qu'ils ont vécu, donc forcément ils ne vont pas porter plainte. Et donc il faut se préparer. Et donc je pense que ce que tu as fait avec ton bouquin, Fais sauter la banque, c'est super. Vachement, je te félicite. On a eu on s'est croisé à Bruxelles, j'ai assisté à ton débat. Vachement, c'est super ta démarche, ce que tu as fait, de quitter, d'essayer de lutter avec plusieurs outils contre le changement climatique. Et chapeau, Jérémy, vachement.
Merci beaucoup, ça me touche. Merci, Alfredo. Hein. Et voilà, il y a l'association aussi, vous n'êtes pas seul.
Ouais, je vais la mettre sur Facebook. Facebook. Ouais, tu m'envoies les liens, je les mets sur la publication de mon émission et comme ça les gens qui nous écoutent,
pour permettre à d'autres de faire le même cheminement.
Voilà.
Et voilà, sans en dire trop, on a déjà reçu des contacts. Donc, c'est, voilà, c'est, on espère pouvoir provoquer des lancements d'alerte et des prises de conscience de plus en plus avec cette association.
Ouais.
Donc, ouais, bah, merci beaucoup ouais, aussi pour...
Non, voilà, et pour, voulait, je finis. Voilà, donc...
tu peux me redire rapidement, pardon, le nom de...
Agradecido, mais je te l'envoierai par Facebook, t'inquiète pas, ou par, ou par WhatsApp, ne t'inquiète pas. Donc, okay. Donc j'ai dit, donc, faire sauter la banque, c'est l'éthique du bouquin de Jérémy, donc ça vaut vraiment la peine de l'acheter, de Jérémy dans ses démarches aussi. Et donc, bah, je pense que c'est très intéressant, vous allez trouver énormément de données qui sont ici dedans. Mais je voulais finir avec un truc que tu as fait, que, en fait, où tu es intervenu, c'est le procès des activistes qui ont été arrêtés lors de la protestation qui sont faits en Suisse.
Mmh.
Et là, c'était quelque chose de touchant pour toi, hein, le fait de témoigner pour défendre les activistes qui ont été acquittés à la fin.
Ouais.
C'est très, très touchant, ça. Hein. Je voulais finir pour ça, parce que je pense que c'est aussi quand même quelque chose de très touchant et de très... Ça donne de l'espoir aussi, non? Le fait qu'ils ont été acquittés. Bon, raconte un peu l'histoire et Jérémy.
Bah oui, oui, ben voilà, ben on... c'est un des honneurs vraiment inouïs qui m'a été proposé suite à ma démission. Donc là aussi, j'espère que ça donne à ceux qui auraient un peu le même profil que le mien, ça leur donnerait un peu des idées comme quoi la vie ne s'arrête pas
après
à son travail.
Voilà,
voilà, exactement. On peut avoir une vie en dehors du travail. Et justement, ben, voilà, un des honneurs qui m'a été fait, c'est juste 6 mois après ma démission. On m'a, un des activistes qui était donc en 2018 impliqué dans l'occupation du Crédit Suisse de Lausanne, en Suisse. ils étaient une douzaine, c'était 12 activistes, donc à occuper ouais. Pacifiquement les lieux, à faire une partie de tennis pour justement interpeller Roger Federer, qui est
ouais.
L'ambassadeur donc, de Crédit Suisse.
Ouais.
Et,
ça fait la
et donc
tour,
voilà, hein. Ils m'ont. Ouais. C'est ça, ils m'ont contacté en compagnie donc, de 11 autres témoins de vraiment très bon niveau. Enfin, voilà, y a même une page Wikipédia carrément qui a été faite à l'occasion où voilà, vous pourrez voir les 11 témoins qui ont été sollicités par les activistes. Et parmi ces témoins donc, de marque, donc, il y avait une des co-autrices du rapport du GIEC de 2018, il y avait un ancien vice-président du GIEC. Il y avait un prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet, une spécialiste de la désobéissance civile appliquée à l'écologie, enfin vraiment un très beau panel. Et donc voilà, le juge ne voulait entendre qu'une seule personne initialement, donc il a entendu, donc on était tous, quasiment tous présents en Suisse pour le procès, bien qu'on savait qu'a priori seul Jacques Dubochet, le prix Nobel de chimie 2017, serait entendu par le juge. Le jour du procès, coup de théâtre, un deuxième témoin est invité, donc Sonia, je ne me rappelle plus son prénom, de son nom de famille, mais voilà, la co-autrice helvétique du rapport du GIEC de 2018 sur le réchauffement 1,5 de la température. Donc elle aussi est appelée à témoigner. Et encore un coup de théâtre en début d'après-midi. Vu que les deux premiers témoins n'avaient pas vraiment de connaissances financières, le juge accepte de m'entendre. Donc, je suis le troisième témoin, le troisième et dernier témoin à pouvoir soutenir les activistes avec mon témoignage d'expert sur la finance. Et donc, voilà, j'étais capable de déconstruire tous les éléments de langage et toute la propagande verte de Crédit Suisse, qui en fait était quasiment la même que celle d'HSBC. Ce qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on a déconstruit une des propagandes, toutes les autres tombent parce que c'est les mêmes.
Ouais.
Et donc voilà, j'étais capable donc, de dire en quoi la logique même d'une banque et d'une institution financière était contraire à tout objectif écologique, étant donné que, comme on l'a dit, la banque et la finance ont besoin de croissance pour vivre comme nous, on a besoin d'oxygène.
Voilà, c'est
donc, clair. Toutes les banques qu'on appelle too big to fail, tous les empires financiers comme HSBC ou Crédit Suisse sont nés plus ou moins avec la révolution industrielle, donc justement avec la découverte des énergies fossiles à l'échelle industrielle et tout le machinisme, toute la mondialisation, etc. qui a suivi. voire même quasiment autour de, enfin, voilà, de entre l'esclavage et la révolution industrielle. Toutes les banques sont nées à peu près à ce moment-là. Et donc, voilà, je dis que les banques n'ont plus aucun avenir dans un monde qui est censé être décarboné. Voilà. Dans un monde sans carbone, ces banques-là n'ont plus de sens et d'utilité. Et donc, voilà, bon, on me demande quelle serait du coup l'action écologique, qu'est-ce qu'une banque pourrait faire pour influencer de manière positive son impact écologique. Et je dis direct qu'on arrête voilà, tous les produits financiers verts, etc., on arrête tout ça, c'est l'autodémantèlement. Il faut que les banques se posent véritablement la question de leur autodémantèlement. Et vraiment, voilà, même les activistes, les avocats des activistes ne s'attendaient pas à ce que j'ai des propos aussi radicaux. Ils s'attendaient à ce que je sois incisif, mais ils s'attendaient pas à ce que je sois aussi radical et que je prenne justement les problèmes à la racine. Et voilà, il s'avère qu'une semaine plus tard, le juge donne son verdict et les activistes sont acquittés. Là aussi, vraiment assez marrant de voir que dès le lendemain de la lecture du jugement, je sais plus exactement quel corps, mais je crois que c'est pas la cour d'appel, mais enfin voilà, c'est le tribunal de la région fait appel pour justement contrecarrer la décision du juge, en fait.
Mmh. Ouais, ça c'est incroyable.
Ouais, alors même que voilà, les comptes rendus du procès ne sont toujours pas disponibles. Donc vraiment, le juge avait invoqué l'état de nécessité, qui fait que voilà, du fait de l'ampleur du risque et des désastres à venir et même en cours, ces gens-là, les jeunes, n'avaient aucun autre moyen d'attirer l'attention que ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est le parquet vaudois qui, au lendemain du jugement, donc avant que les comptes rendus des témoignages soient publics, décide de saisir la cour d'appel, et le procureur général Éric Cottier reprend le dossier en estimant voilà, que le jugement donnait une réponse surprenante à une question juridique de principe. Donc en gros, voilà, par principe, il fallait condamner les activistes tout de suite. Ouais. Il fallait même pas de jugement. Voilà. Donc c'est un peu sa logique qui est assez effrayante. Et bon, voilà, tu as parlé d'espoir, mais malheureusement, l'espoir est assez restreint et assez tué dans l'œuf. Ouais. Parce que, je ne le savais pas à l'époque, c'est tombé en septembre, dis-toi que les activistes ont été condamnés en appel.
Ouais.
Donc il y a eu un appel, justement... saisi par voilà, ce procureur, etc., le parquet vaudois. Et donc, ils ont été condamnés en appel. Inversement, un autre activiste qui avait posé ses mains avec une peinture rouge sur les locaux du Crédit Suisse, je crois, à Genève, avait été condamné en première instance. Donc, c'était juste 2 semaines après ceux de Lausanne. Et là, lui, par contre, il a été acquitté en appel. Donc, bon, voilà, ils sont complètement perdus. Même la justice est complètement perdue, en fait, par rapport à ce genre d'acte de désobéissance civile. Sachant que pour le moment, c'est vraiment gentil. C'est vraiment juste, on occupe une salle du Crédit Suisse pour attirer l'attention des médias.
Ah oui, bien sûr.
On n'est pas du tout dans du sabotage, du démantèlement ou quoi que ce soit. Chose qui, je pense, se rapproche plus d'une... Voilà, quitte à mettre son corps en danger, ça se rapproche beaucoup plus d'une bonne solution... que d'occuper juste temporairement un lieu destructeur et de le laisser détruire le lendemain. Mais bon, voilà, c'est déjà énorme en termes de courage que ces jeunes aient mis leurs études, leur début de carrière un peu en danger en s'exposant comme ça et en prenant position. Et voilà, en faisant un procès qui attire l'attention des médias, etc. Donc ils ont vraiment fait un énorme travail et ils ont eu beaucoup de courage. Et voilà, on peut se dire, rien que la justice est déjà très mal à l'aise face à une situation comme ça non violente pour attirer l'attention et qui est très symbolique au final. Donc on peut se douter qu'une fois qu'on va s'attaquer sérieusement au système et vraiment lui nuire, on peut se douter que derrière la réponse va être vraiment très violente. Donc voilà, c'est ça ce que je dis dès le début du livre. Mais bon, c'est juste une affaire de mots, mais je pense qu'on se comprend. J'essaye vraiment de pas vraiment donner de l'espoir dans ce livre. J'essaye d'éviter ce mot.
Ouais, ça va
l'espoir, voilà, c'est ce qu'on m'a répété à HSBC, c'est ce qu'on m'a répété de partout, il faut garder espoir. Moi, j'essaye de donner du courage aux gens. Je pense qu'on a beaucoup plus besoin aujourd'hui de courage que d'espoir.
Ouais, Non, non, et c'est en fait, ils répondent en commentaire sur ma page Facebook en disant oui, parce qu'ils disent est-ce qu'un autre monde est encore possible? Et ils m'ont dit oui, mais oui, Alfredo, c'est possible. Et oui, mais bon, j'y crois aussi, mais il va falloir tout donner. Hein. Il va falloir tout donner. Et donc, je suis de même avis que tout. Oui, je crois, parce que voilà, je m'mobilise, on fait des choses, mais il va falloir tout y donner. Quoi. Donc, et puis y arriver.
Ouais, il va falloir vraiment se battre et, voilà, et se rendre compte que. Pipi sous la douche, prendre le vélo, etc. Voilà, il y a un moment où ça fait 50 ans qu'on nous le dit, ça marche pas, il va passer à autre chose.
Quoi. Ouais, non, c'est clair. Jérémy, bah, on est resté presque 10 heures là, c'était super, super chouette. Donc encore, un tout grand merci pour être passé ici à l'émission Arrecido, pour présenter ton bouquin.
Tout le plaisir est pour moi, merci Alfredo.
Mais de rien, et surtout, bonsoir aussi à Mathilde, que c'est quelque chose, Mathilde, que c'est quelqu'un de très important pour toi, qui t'a beaucoup aider dans ton projet aussi. Et voilà, je voulais aussi passer un petit mot à ta compagne, quoi.
Bah, ce sera transmis, je lui passe l'attention. Elle était à côté et ça la touche aussi.
Merci voilà. Beaucoup. Mais à tous les deux, un tout grand merci. Et vous savez que si vous venez à Gand, vous savez ici chez vous, vous pouvez venir
à
ici
Gand,
quand vous
ça
voulez.
Marche.
Voilà. Ah bah, donc, ouais, bah, une belle ville aussi, une belle ville. Voilà.
Une belle ville, bah, vas-y, on passera, sans faute.
Allez, à tout de suite.
Très bonne soirée, Alfredo.
Ouais, salut, à une prochaine ciao. Fois.